Pudeur de celui qui donne. Il y a un tel manque de générosité dans le fait de jouer sans cesse à celui qui donne et répand des bienfaits en se montrant partout. Mais donner et répandre des bienfaits, et cacher et son nom et sa faveur, ou bien ne pas avoir de nom du tout, comme la nature aveugle qui nous réconforte avant tout, parce que nous ne les rencontrons plus, enfin, quelqu'un qui donne et répand ses bienfaits. Quelqu'un au visage gracieux. Il est vrai que vous nous gâtez aussi ce réconfort. Car vous avez mis un Dieu dans cette nature, et voici que tout redevient sans liberté et plein de contraintes. Comment ? Ne jamais avoir le droit d'être seul avec soi-même ? Toujours surveillé, gardé, tiraillé, gratifié ? S'il y a toujours quelqu'un d'autre autour de nous, la meilleure part de courage et de bonté est rendue impossible dans le monde. Ne serait-on pas tenté d'aller à tous les diables devant cette indiscrétion du ciel, en face de ce voisin inévitable et surnaturel ? Mais c'est inutile. Ce ne fut qu'un rêve. Réveillons-nous donc. En se rencontrant. A. Où regardes-tu donc ? Je te vois immobile depuis longtemps. B. C'est toujours la même chose, toujours nouvelle pour moi. L'intérêt que suscite une chose me la fait poursuivre si loin que je finis par arriver au fond et par m'apercevoir qu'elle ne valait pas toute la peine que je me donne. À la fin de toutes ces expériences, il y a une espèce de tristesse et de stupeur. Ceci m'arrive en petit jusqu'à 3 fois par jour. Perte dans la gloire. Quel avantage de pouvoir parler aux hommes en inconnu. Les dieux nous prennent la moitié de nos vertus en nous enlevant l'incognito et en nous rendant célèbres. Double patience. Tu causes ainsi de la souffrance à beaucoup d'hommes. Je le sais. Et je sais aussi qu'il faudra que j'en pâtisse doublement. D'une part à cause de la compassion que j'aurai avec leur douleur, et d'autre part à cause de la vengeance qu'ils tireront de moi. Mais malgré cela, il est nécessaire que j'agisse ainsi. L'empire de la beauté est plus grand. De même que nous nous promenons dans la nature, astucieux et contents, pour surprendre dans toute chose sa beauté propre, comme en flagrant délit, de même que, tantôt au soleil, tantôt sous un ciel orageux, nous faisons un effort pour voir tel espace de la côte, avec ses rochers, ses baies, ses oliviers et ses pins, sous un aspect de perfection et de maîtrise. De même, nous devrions aussi nous promener parmi les hommes, tels des explorateurs et des inquisiteurs, leur faisons du bien et du mal pour que se révèle la beauté qui leur est propre, ensoleillée chez celui-ci, orageuse chez celui-là, ne s'épanouissant chez un troisième que dans le demi-jour et sous un ciel de pluie. Est-il donc interdit de jouir de l'homme méchant comme d'un paysage sauvage qui possède ses propres lignes audacieuses et ses effets de lumière, lorsque ce même homme, tant qu'il se donne pour bon et conforme à la loi, apparaît à notre égard comme une erreur de dessin et une caricature, et nous fait souffrir comme une tache dans la nature. Certainement, cela est interdit. Jusqu'à présent, il n'était permis de chercher la beauté que dans ce qui est moralement bon. Ce fut une raison suffisante pour trouver si peu de choses, et pour être forcé de s'enquérir de beauté imaginaire sans chair ni os. De même qu'il existe certainement 100 espèces de bonheur parmi les méchants, dont les vertueux ne se doutent pas. De même qu'il existe chez eux 100 espèces de beauté, et beaucoup d'entre elles ne sont pas encore découvertes. L'inhumanité du sage. À côté de l'allure lourde du sage qui brise tout et qui, comme dit l'hymne bouddhique, marche solitaire comme le rhinocéros, il faut, de temps en temps, la marque d'une humanité conciliante et adoucie. Et non seulement de ses pas accélérés, de ses tours d'esprit familiers, non seulement de ses saillies et d'une certaine ironie de soi, mais encore d'une certaine contradiction, d'un retour occasionnel aux absurdités dominantes. Pour qu'il ne ressemble pas au rouleau compresseur qui s'avance comme le destin, il faut que le sage qui veut enseigner utilise ses défauts pour s'enjoliver lui-même, et en disant « méprisez-moi », il implore la grâce d'être le défenseur d'une vérité usurpée. Il veut vous conduire dans les montagnes. Il mettra peut-être votre vie en danger. C'est pourquoi il vous autorise volontairement à vous venger, avant ou après l'appareil guide. À ce prix, il se réserve la jouissance de marcher devant les autres en chef de file. Vous souvenez-vous de ce qui vous est venu à l'esprit lorsqu'il vous conduisit un jour à travers une caverne obscure sur un sentier glissant ? Votre cœur battait et se disait avec humeur : ce guide pourrait faire mieux que de ramper par ici. Il appartient à une espèce de paresseux plein de curiosité. Ne lui faisons-nous pas trop d'honneur en faisant semblant de lui prêter de la valeur lorsque nous le suivons ?